Je chaîne les Aglions, de Vito à Ekra, de Vernet à Collonge et Gare 33. MPX, c'est la radio de Montre-Est. Primaire et secondaire. MPX, la radio des élèves de Montre-Est.
Würden alle Zweige hier, es lieb vor singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe und kein Preis, nicht für das Nein, weil sie haben mich ja, ey. Sie wären vielleicht gern im Grund.
Salut les amis, aujourd'hui on va parler de politique. Je suis avec Léa, Samed et moi-même, Mehmet.
Et on va vous parler plus précisément des instruments de la démocratie directe.
De quoi ? Ah, des instruments de musique.
Quoi ? Mais non, t'as pas pris ton sujet, toi.
Bah...
Tu sais, l'initiative populaire et le référendum facultatif dans une démocratie directe.
Ah oui, je sais. Déjà, une démocratie directe, c'est...
Enfin, Mehmet, une démocratie directe, c'est quand le Parlement fédéral demande l'avis du peuple pour modifier la Constitution.
En général, dans une démocratie, ce sont les députés qui votent les lois. On considère qu'il n'est pas nécessaire de consulter le peuple, puisque les députés ont été élus par le peuple.
Les députés sont les représentants du peuple.
En Suisse, on considère que si les députés changent des lois ou en ajoutent, il faut consulter le peuple directement.
Ah oui, c'est vrai. C'est pour cela qu'on vote 4 fois par année. Vous avez parlé des instruments de la démocratie directe. L'initiative populaire, ça fonctionne comment ?
L'initiative populaire, elle existe depuis 1891. C'est quand les citoyens peuvent demander une modification de la Constitution.
La Constitution, c'est un rassemblement de lois qui constitue la Suisse. En gros, les citoyens peuvent demander de changer des éléments d'une loi, mais pas de supprimer, c'est ça ?
Exactement. Enfin, tu sais quelque chose.
Oh, ça va.
Bref, tous les Suisses ayant le droit de vote peuvent signer ou lancer eux-mêmes une initiative.
Pour que l'initiative soit prise en compte, il faut qu'elle recueille 100 000 signatures dans un délai de 18 mois. Tu vois, Mehmet, c'est pas compliqué.
Oui, mais je le savais. Hein.
Bah tiens, explique-nous ce que c'est un référendum facultatif, histoire de rigoler un peu.
Ok, alors, c'est facultatif, donc c'est pas important, non ?
T'es sérieux, là ? Le référendum facultatif, ça existe depuis 1874. Quand le Parlement propose une nouvelle loi, les citoyens peuvent s'y opposer. Chaque Suisse ayant droit de vote peut faire une demande de référendum.
Mais c'est bizarre, j'ai jamais entendu ça.
Pourtant, on a appris le sujet ensemble.
Ah bon ?
Ah bon. Et pour que le référendum facultatif aboutisse, il faut que 50 000 citoyens ou 8 cantons le demandent dans un délai de 100 jours.
Ils le demandent comment ? Ils écrivent tous ensemble à Berne ?
Non, c'est aussi une récolte de signatures, mais le délai est court.
Lorsque les signatures sont là et contrôlées, alors le peuple vote pour dire s'il accepte le référendum.
Ah !
Alors, t'as enfin compris ?
Oui, mais c'est dur. Comment vous savez tout ça ?
Avec la brochure de la Confédération et avec le site admin.ch, on a travaillé sur ça ensemble.
Mais c'était il y a longtemps.
C'était il y a une semaine.
Oui, bah j'ai oublié, voilà.
Non mais franchement, Mehmet.
En bref, la démocratie directe, c'est directement le peuple qui donne son avis grâce à des votations.
Oui.
L'initiative populaire, c'est le peuple qui peut demander une modification de la Constitution, donc des éléments d'une loi. Et le référendum facultatif, c'est le Parlement qui propose une nouvelle loi et que les citoyens peuvent s'y opposer. Bien sûr, il y a des délais à respecter.
T'as tout compris.
Enfin, c'est plus facile quand vous m'expliquez en détail. Merci les amis et merci à vous de nous avoir écoutés.
Just to rush, push, cash. Et dis-moi, toi aussi t'entends souvent parler du Conseil fédéral ?
Oui, j'entends très souvent parler dans les infos, ou même en classe. Je pense qu'une chronique de citoyenneté pour expliquer précisément à quoi sert le Conseil fédéral serait très utile parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est.
Alors, tu peux me dire ce que tu sais sur le Conseil fédéral ?
Oui, c'est le gouvernement suisse.
Exactement. Tu peux me dire combien ils sont ?
Ils sont 7, on va voir si on va tous les citer.
Ok. Alors je commence avec Ignazio Cassis qui vient du Tessin. Il est du Parti Radical, le PLR. Et puis encore Alain Berset, un fribourgeois du Parti Socialiste.
À mon tour, je peux citer les deux nouvelles conseillères fédérales élues l'année passée. Karine Keller-Sutter du canton du Saint-Gall et qui est aussi membre du Parti Radical. Et Viola Amert du Haut-Valais et du Parti Démocrate Chrétien, le PDC.
On en a quatre déjà. On va ajouter notre conseiller fédéral, le vaudois Guy Parmelin de l'Union démocratique du centre, l'UDC. Tu te rappelles, on avait congé lorsqu'il a été élu.
Ah oui, merci Guy. Bon, il nous en manque encore deux.
Simonetta Sommaruga, elle vient du canton de Berne et elle est du Parti Socialiste.
Et le président de la Confédération cette année, Ueli Maurer. Il vient du canton de Zurich et il fait aussi partie de l'UDC comme Guy Parmelin.
On a les sept. Défi relevé et réussi. Et dis-moi, le président en Suisse, il fait quoi ? Ça change chaque année, non ? C'est pas du tout comme en France ou aux États-Unis.
Oui, tu as raison. En Suisse, c'est un titre plutôt honorifique, qui ne lui donne pas davantage de pouvoir que les six autres membres du Conseil fédéral. La présidente ou le président est chargé de représenter le gouvernement à l'étranger. C'est en quelque sorte le porte-parole du gouvernement à l'extérieur. Et c'est lui qui dirige les séances chaque semaine.
Comment fonctionne le Conseil fédéral ? Que font-ils concrètement de leur journée ?
Ils se réunissent une fois par semaine tous ensemble et pour examiner les dossiers particulièrement complexes, ils font des séances spéciales.
Une fois par semaine, c'est sympa comme job.
Le reste du temps, ils ne sont pas en vacances. Dans leur département respectif, chaque conseillère ou conseiller fédéral travaille. Pendant les séances où ils sont réunis, ils décident ensemble quelles sont les stratégies, les objectifs de la politique suisse. Il faut préparer des projets de loi.
Comment est-ce qu'on prépare une loi ?
Il faut consulter le plus possible de personnes représentatives par rapport au sujet de cette loi, pour être au plus près des besoins de la population.
Et ensuite, le Conseil fédéral vote la loi ?
Non, la Suisse est une démocratie, tu le sais bien. Le projet de loi est soumis aux deux chambres qui sont...
Le Conseil national et le Conseil des États.
Oui, bravo. Ces deux chambres constituent le Parlement qui va voter la loi. Tu te rappelles qu'il faut que les deux chambres soient d'accord pour qu'une loi soit acceptée ?
Ah oui, ça doit prendre du temps tout ça.
Ça oui, tu peux le dire. Pas rapide, rapide. Et il y a encore un domaine qui occupe le Conseil fédéral.
Laisse-moi deviner, les finances. Le nerf de la guerre, comme on dit.
Exactement, le budget. C'est le Conseil fédéral qui gère les finances de la Confédération. Mais c'est le Parlement qui a le dernier mot là-dessus, aussi.
Ok, j'ai compris. C'est un job à plein temps d'être conseiller fédéral. Je sais pas si ça pourrait me convenir.
Le Conseil fédéral traite quand même plus de 2000 objets par an. Mais dis-moi, j'ai lu un truc que je ne comprends pas. À la différence des systèmes pratiqués à l'étranger, la Suisse ne connaît pas de séparation distincte entre le gouvernement et l'opposition. Pardon, mais je comprends rien à cette phrase. Tu pourrais m'aider ?
Pas de souci, je suis là. Alors d'abord, t'as compris que la Suisse n'est pas comme les autres, hein ? Il y en a point comme nous, comme on dit en vaudois.
Oui, si tu le dis. J'ai compris qu'en Suisse, on n'a pas le même système politique que dans les autres pays. Pourtant, on est bien une démocratie, non ? Comme tous les pays européens, non ?
Oui, évidemment, on est une démocratie. Mais contrairement à la France, par exemple, notre gouvernement est composé de plusieurs partis.
Attends, il y a le Parti Radical, le Parti Démocrate Chrétien, l'Union Démocratique, du Centre, le Parti Socialiste. Ça en fait quatre.
Saurais-tu les disposer sur l'échiquier politique ?
Sur quoi ? Un échiquier ? Tu veux jouer aux échecs ?
L'échiquier politique, c'est une image qui permet de visualiser où se situent les partis. Quelles sont leurs idées, leurs valeurs ?
La droite et la gauche, c'est ça ?
Oui. Au Conseil fédéral, la droite et la gauche sont représentées. Le PLR, le PDC et l'UDC ont 5 sièges. Et le PS, 2 sièges.
Il y a quand même une majorité de droite ?
Oui, mais ils doivent se mettre d'accord pour présenter les projets au Parlement. On appelle ça la collégialité.
La quoi ?
La collégialité, c'est un principe qui veut qu'on tienne compte de tous les avis pour arriver à un consensus.
Un quoi ?
Un consensus, un accord. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, en 1848, seul le Parti Radical gouverne. Ce sont les radicaux qui ont créé la Suisse moderne. En 1891, le PDC a droit à un siège. Puis en 1919, il en gagne un second. On a donc 5 sièges pour le Parti Radical et 2 pour le Parti Démocratique Chrétien.
Et par la suite ?
En 1929, le premier membre de l'UDC rejoint le Conseil fédéral.
4 sièges pour les radicaux, 2 sièges pour les démocrates chrétiens et 1 pour l'UDC. Et le Parti Socialiste, Il n'existe pas encore ?
Si, bien sûr. Mais il va devoir attendre 1943, presque 100 ans, pour entrer au Conseil fédéral. Il aura droit à un deuxième siège en 1951.
Ah ouais, quand même. C'est long. Et depuis ça, n'a plus changé la répartition des sièges ?
Pendant plus de 50 ans, c'est resté ainsi. C'était tellement entré dans les habitudes qu'on appelait cette répartition la formule magique.
Ah oui, carrément, la formule magique. C'est Harry Potter ou Palais fédéral ?
Ouais, un peu. Mais depuis les années 2000, la formule n'est plus aussi magique. L'UDC a pris un siège au PDC en 2003, puis en 2008, les deux conseillers fédéraux UDC ont quitté leur parti pour rejoindre un autre nouvellement créé. L'année d'après, un UDC a pris la place d'un des anciens UDC qui démissionnait. Et en 2015, un autre UDC a pris l'autre siège laissé vacant.
Eh oui, là c'est plutôt agité. J'ai pas tout retenu.
T'inquiète, depuis 2015, c'est à nouveau une formule magique. Deux PLR, un PDC, deux UDC et deux PS.
Mais il me semble avoir entendu que le Parti des Verts revendique un siège au Conseil fédéral.
Oui, ce sera à suivre dans les prochains jours, le 11 décembre.
En conclusion, le Conseil fédéral, ce sont 7 conseillères et conseillers élus par l'Assemblée fédérale. À tour de rôle, l'un ou l'une occupe la fonction de présidente ou président de la Confédération.
Et la composition du Conseil fédéral prévoit une politique de consensus. La droite et la gauche gouvernent ensemble et doivent respecter le principe de la collégialité.
Si vous voulez plus d'informations sur les différents départements dirigés par les conseillers fédéraux, allez lire la brochure de la Confédération en bref. On peut la télécharger en ligne.
Dans notre série de chroniques de citoyenneté, nous vous expliquons comment fonctionne la Suisse. On vous a parlé de fédéralisme et de séparation des pouvoirs.
On vous a parlé du Conseil national, du Conseil des États et du Conseil fédéral.
On vous a parlé des instruments de démocratie directe, le référendum et l'initiative.
Dans cette chronique, on va vous parler d'un des lieux importants de la politique suisse, peut-être même le plus important. Vous devinez ?
Il se caractérise par sa coupole en verre.
Il se trouve à Berne ?
Facile, non ? C'est le Palais fédéral, bien sûr. On sait tous à quoi il ressemble, mais sait-on à quoi il sert ?
C'est à la fois le siège du Parlement et celui du gouvernement.
En effet, on va vous expliquer précisément ce que cela veut dire. Et on va aussi vous raconter l'histoire de sa construction pour que ce palais n'ait plus aucun secret pour vous. Ou presque.
Commençons par décrire ce monument.
Le palais est constitué de 3 éléments reliés entre eux par des passerelles.
De chaque côté du bloc principal, qui est le Palais du Parlement, il y a une aile. Le Palais fédéral ouest et le Palais fédéral est. Et bien sûr, au-dessus du bloc principal, la coupole. Sa décoration et l'utilisation des divers matériaux provenant de toutes les régions du pays contribuent à faire du Palais fédéral un véritable monument national.
Le hall de la coupole est un lieu très symbolique. Il est grand et spacieux. Quand on entre, on est frappé par le large escalier qui conduit à des sortes de balcons dans les étages. Il y a d'autres statues contre le mur.
Oui, ce sont les 3 confédérés. Tu sais, les Waldstätten, Uri, Schwyz et Unterwald.
Ah oui, le mythe fondateur de la Suisse, avec Guillaume Tell.
Sur les images, on dirait presque une église. C'est très impressionnant l'espace. Et la coupole, depuis l'intérieur, c'est un immense vitrail avec la croix suisse au centre et les cantons tout autour. La coupole a été construite en 1900.
Au premier étage, il y a la salle des pas perdus.
C'est pour les personnes qui se perdent dans cet immense bâtiment ?
Non, c'est là qu'ont lieu les arrangements de dernière minute. Les députés viennent y faire des pauses, ils sortent de la salle du Conseil national pour y bavarder.
La salle du Conseil national, on la voit parfois à la télé, elle est très grande et les sièges sont disposés en arc de cercle.
C'est un hémicycle.
Il y a beaucoup de doré quand même, on dirait un peu les grandes salles des nobles à l'époque. C'est aussi très lumineux, mais dis-moi, il date de quand ce palais fédéral ? Un palais, c'est à l'époque des rois, non ?
Ce palais n'est pas très ancien, son inauguration a eu lieu le 1er avril 1902.
C'est l'anniversaire de mon oncle ce jour-là, tu sais ?
On n'a pas forcément envie de savoir. Concentre-toi plutôt sur la date 1902.
Ouais. C'est pas vieux comme le château de Chion, c'est sûr.
Le palais fédéral fait partie de la Suisse moderne, cet état dont nous étudions le fonctionnement. Tu nous rappelles la date de la naissance de la Suisse ?
1848.
Bravo, c'est le 28 novembre 1848 que Berne a été choisi pour le Parlement pour être la ville fédérale. Berne est devenue la capitale de la Suisse ce jour-là.
Exact. Cependant, la ville ne disposait donc qu'un bâtiment pour accueillir en même temps le Parlement, le gouvernement et l'administration fédérale.
C'est vrai que ça fait beaucoup. J'imagine qu'il fallait des solutions provisoires.
Oui, le Conseil national se réunissait en principe au casino. T'imagines ? C'est plutôt rigolo, non ? Le Conseil des États, moins nombreux, se trouvait dans un salon d'un hôtel. Quant au tribunal fédéral et l'administration fédérale, ils étaient établis dans différents bâtiments de la ville.
Comme ce n'était vraiment pas pratique, en février 1849, les autorités de la ville ont été chargées par le Conseil fédéral de trouver un site adapté à la construction d'un bâtiment.
Un bâtiment qui puisse accueillir les deux chambres parlementaires ainsi que le gouvernement fédéral, et qui comporte en outre 96 bureaux pour l'administration fédérale.
Contrairement à ce qu'il se fait dans la plupart des autres pays dotés d'un système bicaméral, le palais fédéral abrite les débats des deux chambres fédérales.
C'est complexe tout ça. C'est dire quoi bicaméral ?
Bicaméral signifie un système politique à deux assemblées représentatives.
Ah oui, le Conseil national et le Conseil des États.
Il me semble que quelqu'un vit dans le palais fédéral. Tu sais qui c'est ?
Ah oui, c'est vrai. Le chancelier de la Confédération. C'est le chef de l'administration du Conseil fédéral suisse. C'est une charge très importante. Actuellement, c'est Walter Turner qui exerce la fonction depuis le 1er janvier 2016.
Si je récapitule, dans le palais fédéral, on rencontre le chancelier et les 7 conseillers fédéraux. Et bien sûr, sur les 200 députés du Conseil national et les 46 du Conseil des États.
Ils n'y vivent pas, hein. Ils y viennent lors des sessions qui durent 3 semaines. Et pour les travaux des commissions, ce sont des groupes qui travaillent toute l'année pour préparer des lois qui seront discutées lors des sessions. Environ 2000 séances sont organisées chaque année dans les innombrables salles du palais.
Ça fait beaucoup. Et bien sûr, il y a tout le personnel administratif qui travaille dans les bureaux. Mais on peut croiser qui encore au palais ?
Eh bien, nous, parce que les débats des conseils sont publics et attirent une foule nombreuse.
Il y a vraiment des gens qui viennent voir ça ?
Je crois bien que oui.
Parmi les gens que tu peux croiser, il y en a qui jouent un rôle important, les lobbyistes. Ils défendent auprès du Parlement les intérêts d'associations, d'entreprises ou d'autres organisations.
En effet, chaque député peut désigner 2 personnes de son choix qui se voient remettre un laissez-passer permanent pour le palais du Parlement.
Et il y a aussi les journalistes. Les médias ne sont jamais très loin de la scène politique.
Un centre de presse moderne et spacieux a été installé à la Bundesgazette, juste à côté, il y a quelques temps.
Des équipes de tournage sillonnent presque chaque jour le palais fédéral afin d'interviewer des personnalités politiques. Les réunions, les séances, les interviews, les grandes décisions pour le pays sont les faits quotidiens du palais fédéral où les politiciens, journalistes, visiteurs se côtoient à longueur de journée.
Conclusion, le palais fédéral approche les 120 ans d'existence et il est toujours le rêve de tout politicien suisse ambitieux.
Merci à la brochure La Confédération en bref qui nous a fourni toutes ces informations pour vous présenter ce lieu que l'on vous invite à visiter lors d'une prochaine sortie à Berne, le Palais fédéral.
De Genève à Lyon, de Vito à Écra, de Vernet à Collonges et Gare 33, même pays, c'est la radio de Montre-Est. Primaire et secondaire. MTX. La radio des élèves de Montre-Est.